Je vous le disais tout à l'heure, je voulais vous donner des nouvelles de Mme Suu Kyi, la militante birmane pour la démocratie qui, l'an passé, avait reçu le prix Nobel de la paix. Parce qu'il semblerait que le prix Nobel n'a rien changé à sa situation et elle vit toujours sous surveillance. En effet, un an après avoir reçu ce prix, la militante birmane pour la démocratie, Yang San Suu Kyi, est toujours en surveillance, en résidence surveillée, en bonne santé, mais sans perspective d'une libération prochaine, a déclaré vendredi le ministre birman des Affaires étrangères. La lauréate 1991 en est à sa quatrième année de solitude sous bonne garde à son domicile de Rangoon, entourée de barbelés. Elle n'a pas vu sa famille qui vit en Grande-Bretagne depuis juillet. La junte militaire birmane reproche à Mme Suu Kyi d'avoir, en prenant la tête de manifestations de 1988 à 1989 pour la démocratie, commis des actes illégaux contraires à l'ordre public. Bien qu'en résidence surveillée depuis juillet 1989, la lauréate n'a pas encore fait l'objet de poursuites judiciaires régulières. Alors bien évidemment, c'est fort triste d'entendre ces nouvelles, mais je crois que cela ne veut pas dire que recevoir le prix Nobel de la paix ne sert à rien. Je pense qu'en tout cas, il a le mérite d'attirer l'attention sur une situation difficile que les gens ont tendance à ignorer et d'être tout à coup sous la loupe d'un prix aussi prestigieux que le prix Nobel de la paix peut que rendre service aux gens qui résistent et qui souvent subissent la répression dans le pays où ils sont. Et donc, quant à Rigoberta Menchú, ce n'est pas elle directement qui va en profiter, puisque heureusement pour elle, elle a échappé du moins momentanément aux griffes du gouvernement guatémaltèque et de son armée. Mais c'est tout le peuple guatémaltèque et les autres peuples d'Amérique latine qui peut-être verront leurs conditions de vie et la répression qu'ils subissent tout à coup éclairées par les répercussions du prix Nobel de la paix. Et on ne peut que trouver que les personnes qui décident d'attribuer le prix Nobel de la paix ont bien fait de choisir cette façon d'attirer l'attention sur des endroits où les droits de l'homme et des êtres humains et de la personne ne sont pas respectés. Je vous propose d'écouter maintenant Buffy Sainte-Marie, une Amérindienne. C'était Buffy Sainte-Marine, une chanson d'une femme amérindienne aux États-Unis et que nous connaissions il y a fort longtemps, dans les années 1970, et que nous découvrons en 1992 avec beaucoup de plaisir. Je vous propose, pour accompagner les pages écrites ou plutôt racontées par Rigoberta Menchú dans le cadre de sa rencontre avec Elisabeth Burkos, cette ethnologue latino-américaine avec qui elle a mis au point ce livre qui a pour titre Rigoberta Menchú, une vie et une voix, la révolution au Guatemala, écrit en 1983. Eh bien, je vous propose une musique qui n'est pas celle traditionnelle de la musique des Andes, mais une musique écrite par Yann Garbarek, un homme, une fois n'est pas coutume, et qui a pour titre, c'est pour ça que je l'ai choisi, à tous ceux qui sont nés avec des ailes. Et je pense que Rigoberta Menchú a dû certainement naître avec des ailes. Je m'appelle Rigoberta Menchú, j'ai 23 ans. Nous sommes en 1983. Je voudrais apporter ce témoignage vivant que je n'ai pas appris dans un livre et que je n'ai pas non plus appris toute seule, vu que tout ça, je l'ai appris avec mon peuple. Je voudrais bien insister là-dessus. J'ai beaucoup de mal à me rappeler toute cette vie que j'ai vécue, parce que souvent, il y a des moments très sombres, et il y a des moments où, ça oui, on passe aussi du beau temps, du bon temps, mais l'important c'est, je crois, que je veux bien mettre ça au point, que je ne suis pas la seule, parce que beaucoup de gens l'ont vécu, et c'est la vie de tous, la vie de tous les Guatémaltèques pauvres, et je vais essayer de raconter un peu mon histoire. Dans ma situation à moi, on trouve la situation réelle de tout un peuple. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans les articles qui évoquaient la vie de Rigoberta Menchú, le tragique sort réservé à sa famille. Nous n'y reviendrons pas, je ne vous choisirai pas dans les pages de moi, Rigoberta Menchú, celles qui décrivent les atroces sévices qu'ont subi le père, la mère, le frère, les sœurs de Rigoberta Menchú. Je choisis plutôt d'évoquer avec vous le chapitre qui a pour titre « Une travailleuse agricole de 8 ans ». Et Rigoberta Menchú met comme sous-titre à ce chapitre « C'est alors qu'est née ma conscience ». Je travaillais depuis toute petite, mais je ne gagnais pas d'argent. J'aidais plutôt ma maman, vu que ma maman, elle avait toujours un bébé. Et le petit frère, il fallait le porter, tout en cueillant le café. Alors ça me faisait beaucoup de peine de voir le visage de ma mère couvert de sueur. et qu'elle ne pouvait pas venir à bout de sa tâche. Et moi, je devais l'aider. Et malgré ça, mon travail n'était pas payé. C'était seulement une contribution à la tâche que faisait ma mère. Je cueillais avec elle ou je gardais le petit frère pour que ma mère produise une bonne quantité de travail. Mon petit frère avait à cette époque peut-être 1 ou 2 ans. Et comme là-bas, chez nous, les indigènes, on préfère que l'enfant en boive le lait et de ne pas lui donner de la nourriture parce que ça multiplie la nourriture par 2 quand l'enfant mange et que la mère mange. Mon petit frère à cette époque tétait encore. Et ma mère devait lui consacrer du temps pour qu'il tète et tout ça. Et à cette époque, je me rappelle que le travail de ma mère, c'était de faire à manger pour 40 travailleurs. Elle devait moudre le maïs, faire les tortillas, mettre le nixtamal sur le feu, cuire les haricots pour le repas des travailleurs. Et à la finca, c'est difficile. La finca, c'est une grande ferme avec un grand propriétaire terrien. Toute la pâte qu'on fait le matin doit être entièrement utilisée le matin même, parce que sinon elle tourne à l'aigre. Donc ma mère devait faire ses tortillas en fonction de ce que mangent les travailleurs à chaque repas. Ma mère était très appréciée des travailleurs, vu qu'elle leur donnait de la nourriture très fraîche. Mais comme nous, nous dépendions d'une autre dame qui nous donnait à manger, il y avait des fois où nous mangions des choses très aigres, des tortillas toutes dures, des haricots qui sautent quand on les prend. Dans la finca, la femme qui fait à manger ne sait même pas les gens qu'elle va avoir. Le caporal vient et lui dit « c'est ça ton groupe ». Ça, c'est ce que tu leur donnes à manger. Ça, les gens que tu vas avoir. Donne à manger à telle heure et telle heure. Et allez, au travail. Et nous mangions avec des femmes différentes qui nous donnaient des repas. Et ma mère, même si elle devait ne pas dormir de toute la nuit, elle aimait donner à manger aux travailleurs comme ils le méritent. Ils rentrent fatigués. Alors elle se souciait beaucoup de bien donner à manger. Même si nous autres, nous mangions mal par ailleurs. Donc à 5 ans, quand ma mère travaillait là-dedans, je devais garder mon petit frère et je ne gagnais pas encore d'argent. Je voyais ma mère qui très souvent à 3 heures du matin avait déjà la nourriture toute prête pour les travailleurs qui sortent tôt pour travailler. Et à 11 heures du matin, elle avait aussi la nourriture prête pour le repas de midi. À 7 heures du soir, elle courait à nouveau pour donner à manger aux gens. Et tous ces moments libres, elle devait encore aller travailler à la cueillette du café pour faire des extras, pour arrondir ses gains. Et alors moi, en voyant ça, vraiment, je me sentais très inutile et sans courage de ne rien pouvoir faire pour ma mère, juste garder mon petit frère. C'est alors qu'est née ma conscience, c'est vrai. Même si ça ne plaisait pas beaucoup à ma mère que je commence à travailler, à gagner mon argent, je le faisais quand même. Et je réclamais ça surtout pour l'aider, elle. Économiquement, mais aussi pour lui donner de la force. C'est que ma mère était vaillante et faisait très bien face. Mais il arrivait des moments où un de mes frères tombait malade. Et si ce n'est pas celui-là qui est malade, c'est l'autre. Alors presque tout ce qu'elle gagnait partait pour les médicaments, pour mes frères ou pour moi. Alors ça me faisait beaucoup de peine. Et c'est ainsi que je me rappelle que quand nous avons terminé les 5 mois que nous étions à la finca, nous rentrions à l'altiplano et moi aussi, j'ai presque failli mourir. J'avais environ 6 ans et ma mère était bien inquiète parce que j'étais presque en train de mourir. Le changement de climat, très brutal pour moi. Et après ça, je faisais tous mes efforts pour ne pas tomber malade. Et même quand j'avais très mal à la tête, je ne le disais pas. Et ça a été quand j'ai déjà eu mes 8 ans que j'ai commencé à gagner de l'argent à la finca. Et c'est alors que je me suis proposée pour faire une quantité de 35 livres de café par jour. Et qu'ils me payent 20 centimes en ce temps-là pour cette tâche. Il y a des fois que je ne faisais pas ma quantité en un jour. Si je faisais les 35 livres, alors je gagnais les 20 centimes par jour. Mais sinon, je devais continuer le jour suivant à gagner ces mêmes 20 centimes. Mais je me proposais de le faire. Et je me rappelle que mes frères terminaient leurs tâches vers les 7-8 heures du soir par là. Et des fois, ils me feraient leur aide. Et moi, je disais, je dois apprendre parce que si je n'apprends pas, qui va m'enseigner? J'étais bien forcée de faire ma tâche. Il y avait des fois que j'arrivais à peine à faire 28 livres parce que je me fatiguais, surtout quand il faisait très chaud. Alors ça me donnait mal à la tête et je restais à dormir sous les arbres de café. Et voilà que j'entends mes frères qui viennent me chercher. Le matin, nous devions pratiquement nous relayer pour aller dans le bois faire nos besoins. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de waters dans les FICA. Mais il y avait un petit endroit où il y a beaucoup de bois et c'est là que tout le monde allait. Nous étions quelque chose comme 400 personnes à vivre là. Tous les gens allaient dans le même bois de sorte que c'était les latrines, les toilettes de tous. donc nous y allions à tour de rôle. Une poignée de gens revient et une autre y va. Et il y avait beaucoup de mouches au-dessus de toute cette saleté qu'il y a à certains endroits. Il y avait un seul robinet dans le baraquement où nous vivions. Il y avait des puits d'eau plus loin, un peu retirés, qui servent aux propriétaires terriens pour arroser le café et pour faire des cultures. Donc nous devions encore aller jusqu'au puits pour prendre de l'eau, pour remplir des bouteilles d'eau et les emporter pour la cueillette du café. Le café, nous le cueillons sur la branche et il y a des fois où nous le ramassions simplement. Ça se fait quand il est déjà plus mûr et quand il tombe tout seul. C'est plus difficile de le ramasser que de le cueillir. Des fois, il faut secouer les arbres pour que les grains de café tombent. Et ceux qui sont le plus à portée de main, on les cueille bien soigneusement, vu que si nous arrachions en même temps une branche de l'arbre, nous devions la payer sur le salaire que nous touchions, grain par grain. Encore pire que quand ce sont des caféiers très jeunes. Alors une branche vaut plus que quand c'est un café déjà vieux. C'est pour ça qu'il y a les caporales qui sont là, qui surveillent les travailleurs quand ils cueillent le café, s'ils n'abîment pas les feuilles des arbres. Nous devions travailler avec beaucoup de soin. Ça oui, que depuis toute petite, je me rappelle que c'est une des choses qu'on m'a apprise à être très délicate. Cueillir le café, c'était comme de soigner un blessé. Je travaillais toujours davantage, vu que je me proposais pour des tâches, et je me fixais, par exemple, le but de ramasser une livre de plus de ce que je cueillais chaque jour. Et c'est comme ça que je me suis mise à augmenter mon travail. Mais malgré ça, ils ne me payaient pas ce que je faisais en plus, le reste. Ils me payaient très peu. À cette époque, je tombe malade donc, à 8 ans. Ça faisait à peine 3 mois que j'étais à la finca et je suis tombée malade et nous avons dû rentrer à la maison, sur l'altiplano. En fait, c'était l'époque où nous devions aller semer la milpa sur l'altiplano, les hauts plateaux, en mars. Donc, nous rentrons et là, c'est quand j'ai commencé à travailler avec mes parents, moi aussi, au champ. C'était une autre vie, ça oui, plus gaie, au champ. Même si nous souffrons beaucoup, beaucoup quand nous revenons de la finca, vu que dans la montagne il pleut beaucoup et nous étions mouillés et que notre petite maison ne nous permettait pas d'éviter d'avoir de l'air, l'air entrait tout le temps, les bêtes entraient aussi tout le temps dans notre petite maison. Ça faisait que nous ne pouvions pas être bien, ni bien couverts, parce que nous n'avions pas de vêtements. Et de nouveau, nous descendons à la finca. C'était toujours vers le mois de mai, par là. Mon papa est parti couper la canne à sucre dans une autre finca. Un de mes frères est parti cueillir le coton. Et nous autres, les femmes, nous sommes restées à la cueillette de café. Quand mon père travaillait pas très loin, il rentrait. Mais quand il travaillait dans une autre finca, nous ne nous voyions pas jusqu'à la fin du mois, bien sûr. Et c'est comme ça qu'est passé tout le temps, pour ainsi dire, que mon père allait couper, semer ou nettoyer la canne à sucre ailleurs. Mon père travaillait dans la canne à sucre et nous autres dans le café. Donc nous n'étions pas dans les mêmes fincas. Il y avait des fois que nous nous voyions tous les 3 mois ou tous les mois. Quand ils revenaient du travail, ils étaient très fatigués. Et par exemple, mon père se fatiguait beaucoup. Alors bien souvent, il n'avait pas envie de bavarder ou de parler. Et ma mère non plus. Même s'ils ne se disputaient jamais. Mais c'était une situation où très souvent nous devions faire silence. Nous devions faire tout très bien pour que la maman et le papa se reposent un peu. Et encore plus avec tout le bruit des gens quand on vit parmi des milliers de personnes, des inconnus. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui ont subi des bouleversements terribles, c'est-à-dire des gens qui se prostituent et ainsi de suite. Alors c'est un milieu très difficile et très souvent, on cesse de s'occuper de ses enfants. La maman, tellement qu'elle est fatiguée, elle ne peut pas. C'est là justement qu'on remarque bien la situation de la femme au Guatemala. Parce que la plupart des femmes qui travaillent à la cueillette du café et du coton, des fois la canne à sucre, elles sont là avec leurs 9 ou 10 enfants. Alors parmi ces 9, 10 enfants ou plus, il y en a 3 ou 4 qui se portent plus ou moins bien, qui résistent un peu. Mais la majorité sont toutes enflées à cause de la malnutrition. Face à cette situation, la mère pense que 5 ou 4 de ses enfants peuvent mourir. Et c'est difficile que l'homme se révolte devant cette situation. Il essaye de l'oublier parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Alors c'est la mère qui doit assister ses enfants pendant leur agonie finale. Mais elle est présente partout. Bien des fois, la femme démontre plus de courage par rapport à toute cette situation. Et ça arrive avec les gens qui, par exemple, sont allés à la caserne, qui abusent de toutes les jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père et qui gagnent juste le peu qu'elles gagnent à la finca. Alors on commence à voir des prostituées, parce que dans notre peuple indigène, la prostitution n'existe pas, à cause de notre culture propre, à cause de nos coutumes propres que nous respectons encore. Et donc, pour une communauté, le fait qu'on change notre façon de nous habiller, c'est un manque de dignité aux yeux de tout le monde. Donc, celui qui ne s'habille pas comme s'habillent nos grands-parents, nos ancêtres, celui-là, il est en train de se perdre. Voilà, je vous ai proposé un chapitre du livre « Moi, Rigoberta Menchú, une vie et une voix, la révolution au Guatemala ». Un livre qui évoque la vie de la dernière nominée au prix Nobel de la paix, 1992, et qui avait été réalisé en 1983 avec la connivence d'Elisabeth Burgos, une ethnologue latino-américaine. Ce livre, je suppose que vous le trouverez à la librairie, l'inédite librairie des femmes à Genève. Je suppose aussi que tout le monde va se précipiter pour le trouver. Alors si vous avez envie de découvrir les nombreux autres chapitres qui décrivent aussi bien les traditions, les croyances, les mœurs de la communauté dans laquelle est née Rigoberta Menchú, la vie de sa famille, sa prise de conscience et sa lutte pour sa propre émancipation, eh bien dépêchez-vous. Parce que je pense que ce livre deviendra vite une chose fort rare. C'est le prix à payer lorsque l'on devient un personnage public. Pour finir aujourd'hui ce remue-ménage, eh bien je vous propose d'écouter la musique d'une femme que j'ai découverte. Peut-être la connaissez-vous, vous. C'est Lorena McKennitt, une Irlandaise, et qui vous emmène dans une musique vraiment très, très irlandaise. Vous allez voir. Thank you.
grandma.